Bonjour aux amis de la Terre au Carré, c'est Pierre du Val d'Oise. Je voulais vous faire part d'une initiative d'un collectif d'associations des Pays-Bas qui a engagé une action contre le commerce et la spéculation foncière qui empêche sa propre protection. Ils ont mené une réflexion, un moyen de faire autrement. Et si la Terre n'était plus une marchandise, au même titre que l'air? Henri Mentic, qui a lancé l'opération, lance une idée de mettre la Terre entière sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle ne deviendrait du coup plus une marchandise comme aujourd'hui. Henri a déjà cédé sa propre terre à la communauté mondiale au travers d'un rachat citoyen. En ce moment, il fait le voyage des Pays-Bas jusque Paris, siège de l'UNESCO, à pied, avec une brouette. Il recueille sur le parcours de nombreux échantillons de terre afin de symboliquement remettre l'ensemble de la terre à l'UNESCO. Nous pourrons le rencontrer le samedi 4 juin sur l'esplanade de Notre-Dame à 15h à Paris et le 7 juin à l'UNESCO. Venez nombreux, merci pour vos émissions que je suis fidèlement. À bientôt.
Oui, bonjour, c'est encore Yolande de Chaumont-sur-Tarronne. Je voulais vous parler des oiseaux. En tout cas, chez moi, ils ne sont pas en voie de disparition. J'ai des oiseaux en pagaille, des piaves, des tourterelles, des pigeons, des pies, des merles, les choucas des tours qui viennent manger. L'hiver, j'ai les mésanges, rouge-gorge. La nuit, j'entends les rossignols. Malgré tout ça, enfin, j'ai quand même des chats, mais ça n'empêche rien. Je suis aussi refuge LPO et j'avoue que je les nourris pratiquement toute l'année, les oiseaux. Voilà, c'était pour dire qu'ils disparaissent pas partout. Au revoir.
Thaïs de Montsartou. Bonjour la Terre au Carré. Cette semaine à Cannes a lieu le Festival international du film écologique et social. Une sélection de films engagés, une rencontre avec les associations maralpines, il y aura aussi des tables rondes et débats. Toutes les infos sont sur fifes.fr. Merci.
Bonjour la Terre au Carré, Adrien, maraîcher bio à Maché en Vendée. Je vous appelle pour vous parler Habitat Léger. Donc, nous habitons sur notre ferme avec nos deux enfants en bas âge dans un mobilhome, ce que le nouveau maire de notre commune ne veut pas tolérer et cherche à nous déloger en lançant des procédures contre nous pour infraction à l'urbanisme. Il ne voit ni la nécessité pour nous d'être sur place, ni les points positifs de notre présence. Que ce genre de situation soit possible en 2022 nous semble complètement hallucinant. Nous voulons faire connaître ce problème que vivent trop de jeunes agriculteurs et faire évoluer la loi sur l'habitat léger pour tous. Cela participerait, selon nous, à résoudre de nombreuses problématiques environnementales et sociétales. Si vous voulez nous soutenir, une pétition est en ligne. Mobilhome à la ferme. Merci pour vos émissions.
Voilà, et si vous souhaitez en savoir plus sur la situation d'Adrien et de sa femme Marine, qui sont donc maraîchers bio à Maché en Vendée, eh bien tout est expliqué sur leur pétition que vous trouverez facilement sur Internet. Adrien, tenez-nous au courant sur votre situation en nous laissant bien sûr des messages sur ce répondeur 01 56 40 45 45. En 2030, 2 milliards de personnes habiteront des bidonvilles. Oui, vous avez bien entendu, 2 milliards, ce qui signifie un terrien sur 4. Ces constructions bâties avec des matériaux de fortune sur des terrains squattés sont habitées par une population pauvre et exclue de tout. Ces bidonvilles se sont multipliées avec l'exode rural et l'extension des mégalopoles. Mais dans quel contexte sont-ils apparus? Pourquoi ont-ils proliféré? Et quelle est la vie de leurs habitants? Eh bien, c'est l'objet d'un livre qui paraît aux éditions de La Découverte. Et on en parle cet après-midi avec son auteur, Thierry Paco, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Thierry Paco, philosophe essayiste. On va donc voir avec vous quelle réalité urbaine révèle les bidonvilles. On en discute bien sûr avec les auditeurs également. Il y a des questions qui vont arriver sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'application France Inter pour vous entendre directement avec les notes vocales. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
14h30, on passe au vert.
Et je vais vous présenter la plus grande plante du monde. Elle est en Australie et elle est sous-marine parce que oui, il y a aussi des plantes sous l'eau, hein, pas que des algues.
Voilà pour le sommaire de cette émission, réalisée par notre queen Valérie Ayestaraï, préparée par Anna Massardier, avec à la technique Laurent Baudouin.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré. Sur France Inter.
Regarde-la ma ville, elle s'appelle Bidon. Bidon, bidon, bidonville, vivre là-dedans c'est coton.
les filles. Claude Nougaro les a chantées dans son tout premier album, c'était en 66, Les Bidonvilles, qui font donc l'objet de votre ouvrage de Thierry Paco, À la découverte. Si la ville légale brille de tous ses feux, le bidonville peine à éclairer ses sentiers souvent escarpés et tortueux. La nuit épaisse l'enveloppe de ses ténèbres et le fait disparaître pour quelques heures. On a l'impression qu'il s'absente durant la nuit et ne reprend sa place qu'avec le jour, signe de sa précarité. Ça, ce sont quasiment les premières lignes de votre ouvrage. C'est quoi un bidonville exactement, Thierry Paco?
Un bidonville, c'est un brouillon de ville, c'est une non-ville aux yeux de ceux qui ont construit la vraie ville.
Et qui en général ne les reconnaissent pas?
Qui ne les reconnaissent pas, qui considèrent donc que c'est une ville illégale et d'une certaine façon fantomatique. Bon, donc elle n'existe pas la nuit puisqu'il n'y a pas l'éclairage public. Donc cette ville-là reste noire. Et le bidonville, à mon avis, a une longue histoire. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui apparaît à la fin au moment de la crise économique dans les années 30, mais qui en fait s'impose dans les années 60-70 dans les pays occidentaux, et puis on considère que c'est terminé maintenant. Bon, alors qu'en fait
à tort,
2 milliards c'est pas rien quand même. Bon, et puis surtout c'est que en écrivant ce livre, je me suis demandé plus exactement s'il n'y avait pas aussi des bidonvilles dès les premières villes 3500 ans avant Jésus-Christ.
Oui,
quel contexte, ça aurait pu exister?
Alors, c'est simplement par le fait d'amener une population flottante, comme on l'appelle, soit de prisonniers de guerre, soit d'esclaves, soit de paysans pendant la morte saison, pour construire quoi? Les pyramides, pour construire les temples, pour construire les quais de certains fleuves qu'on allait dompter ainsi. Et donc c'est une main d'œuvre qui venait de manière non définitive. Alors on n'allait pas s'embêter à leur proposer des vrais logements. Donc là, j'ai posé la question évidemment à des archéologues. Et ils ont repéré quand même des lieux comme ça où on avait du bâti très très rural en fait dans son aspect. Il y a des branchages et tout comme ça parce que c'était des paysans qui venaient là généralement.
Parce que oui, vous dites que du coup aujourd'hui ça remonte aux années 30, donc c'est finalement très récent, enfin moins d'un siècle. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas du tout de forme de bidonville, ne serait-ce qu'au 18e, 19e
siècle. Si, bien sûr, sauf qu'on les appelle pas comme ça dans les livres d'histoire.
On les appelle comment?
On les appelle taudis.
Ah oui.
Alors taudis pour le français et slum pour l'anglais, donc taudis c'est un terme qui vient d'un verbe qu'on n'utilise plus, qui est se tauder, c'est-à-dire se mettre à l'abri. C'est un terme du vocabulaire militaire pour les fortifications. Et puis par métonymie successive, ça désignait un logement pas terrible, ouvert au vent, à la pluie, etc. Et donc précaire et insalubre. Le mot slum, qui est aujourd'hui le mot le plus utilisé dans le monde, évidemment, pour désigner bidonville, c'est le mot que la Banque mondiale utilise, bien sûr. C'est un mot qu'on aurait repéré en 1812 dans le parler argotique longue pour désigner un racket. Et puis ensuite la pièce ou l'endroit où il se passait des activités un peu louches. Bon, et puis voilà, encore à nouveau par métonymie, mais très rapidement on le trouve chez Dickens par exemple pour désigner un habitat de fortune, quoi, inconfortable, mais en même temps illégal, enfin d'une certaine façon.
Thierry Paco, les années 30, c'est la crise de 29 en fait, très clairement, qui donne naissance à ces bidonvilles, et pas seulement d'ailleurs aux États-Unis.
Alors, donc ça m'a permis d'affirmer d'affirmer ce que je dis depuis longtemps, c'est que la Terre est urbaine. Et donc, par conséquent, ce n'est pas spécifique au tiers-monde, ce n'est pas spécifique à la colonisation. La crise économique a touché tous les pays, bien évidemment.
2 milliards d'habitants donc dans les bidonvilles en 2030, beaucoup plus encore en 2050. Qu'est-ce que ça dit finalement du monde urbain?
Ça montre projection. Tout simplement que l'urbanisation s'effectue selon plusieurs modalités. Vous l'avez mentionné, la mégalopolisation, les gated communities, c'est-à-dire les enclaves résidentielles sécurisés qui prolifèrent à l'échelle planétaire, y compris dans des pays qui ne sont pas des pays très riches, ou qui ont des gens très riches, mais qui ont aussi...
Donc des ghettos pour riches, clairement,
voilà,
pour
c'est
les
des ghettos
protéger,
pour riches, absolument, et ça, c'est le premier produit immobilier. Bon, donc c'est quelque chose de... Et ça ne fait pas ville. Donc, et puis, c'est aussi représenté au cinéma et dans la littérature, ça veut dire que ça a pris. Ce n'est pas quelque chose comme ça de fantasme d'un journaliste français. Bon, non, donc...
Donc ça dit quoi? Ça dit que l'urbanisation, ça met de côté plein de gens, en fait,
en réalité. Évidemment, hein. C'est pour ça que un auteur qui avait inventé la notion d'éco-développement, Inès Sisax, expliquait que la ville était une loterie. Alors il y a des gagnants, mais il y a des perdants.
Ouais.
Et il y a de plus en plus de perdants.
Est-ce qu'on en trouve sur tous les continents, dans toutes les villes? Et on va faire un focus aussi sur l'Europe et la France.
Alors on en trouve sur tous les continents, bien évidemment. Donc c'est même plus ancien que 1930, parce que le mot favela, qui vient d'une plante qui poussait sur le flanc d'une colline, une plante urticante par ailleurs, on l'utilise dès 1902. Donc les favelas sont centenaires.
En Amérique du Sud, évidemment, on le précise. Hein.
Pardon.
En Amérique du Sud, on le précise. Ça vient d'Amérique du Sud.
Oui, oui, oui. Ça c'est brésilien. Enfin, c'est en brésilien. Bon, mais il y a des noms. Alors, j'en fais la liste. Hein, j'ai épargné ça aux auditeurs. Il y a toute une liste d'appellations pour tous les pays du monde.
Mmh. Donc on en trouve partout.
On en trouve partout.
Ouais. Donc dans les pays dits développés.
Évidemment. Donc là, c'est l'ambiguïté et même l'hypocrisie, j'allais dire, des systèmes de statistiques et donc du pouvoir politique en place. Pour le cas de la France, on dit il y en a pas. Faut pas mélanger les camps de migrants, les camps de Roms, ou de gens du voyage, etc. Donc qui sont pas forcément des bidonvilles par ailleurs. Bon, mais qui peuvent avoir l'allure d'un bidonville parce qu'ils vont squatter un terrain et ils vont piquer l'électricité et l'eau comme ils pondent.
Enfin, c'est d'une très grande hypocrisie parce qu'on en voit partout. Il suffit de traverser le périphérique, par exemple, pour voir des gens qui vivent sous des tentes, dans des cabanes en carton.
Absolument.
Et pas seulement sous le périphérique, d'ailleurs.
Non. De toute façon, le long des voies ferrées, enfin, c'est près des aéroports.
Est-ce qu'à Calais, on peut parler d'un bidonville, par exemple?
Je pense qu'on peut parler d'un bidonville. À Grande-Synthe aussi, à un moment donné. Parce que bidonville, ce n'est pas péjoratif. C'est simplement pour montrer qu'il y a des gens qui sont là, qui espèrent améliorer leur sort chaque jour, et puis qui sont bloqués par le fait qu'ils n'ont pas d'existence reconnue. Mais eux-mêmes n'ont pas d'existence légale, puisqu'ils sont migrants. Ils sont donc sans papier.
Et dans les 2 milliards de projections qu'il y a, est-ce ça concerne certaines zones en particulier, ou est-ce que c'est diffus comme ça partout?
Non, c'est vraiment... Alors, c'est plutôt les pays qu'on appelait auparavant du tiers-monde. On ne sait plus trop comment on les appelle maintenant. Et donc, c'est là où se trouvent les plus gros bidonvilles. Les bidonvilles qui sont millionnaires. Parce qu'en 2030, approximativement, on considérera qu'il y aura 200 000 bidonvilles au monde.
Ouais.
Mais certains seront tout petits, c'est-à-dire des bidonvilles de 20-30 familles, justement souvent adossés à ces gated communities dont je parlais tout à l'heure, parce que ce sera le personnel de service.
Mmh.
Les jardiniers, la femme qui repasse, l'homme qui passe le balai, etc. Donc ils viennent se greffer à un habitat provisoire, bricolé, contre un ensemble de villas ou de luxe.
Bon. Sauf que ça dit beaucoup sur la paupérisation du monde, au fond.
Hein. Évidemment.
C'est exactement ce qui va se passer. Hein.
C'est-à-dire qu'en fait, le logement dissocial, qui est déjà pour moi une aberration, parce qu'un logement, c'est un logement, enfin bon, ça c'est un autre problème, mais le logement dissocial en Afrique noire aujourd'hui, par exemple, ou dans les pays d'Afrique du Nord, sont finalement destinés à une population solvable qu'on appellerait nous plutôt middle class. Donc les plus pauvres sont toujours, même dans ces pays-là, même par rapport à des politiques qui ont été élaborées vis-à-vis d'eux, privés d'un toit.
Thierry Paco, à Lagos, au Nigeria, se trouve le bidonville de Makoko, surnommé la Venise de Lagos. 300 000, voire 400 000 personnes, selon les chiffres, vivent dans ce lieu qui a été cartographié par une équipe de bénévoles pour relever les lieux d'intérêt. Extrait d'un reportage de l'AFP en 2019.
Nous nous promenons avec une équipe composée de filles de Makoko pour collecter les points d'intérêt dans le quartier et les mettre sur une carte. Ainsi, nous pouvons avoir une vision plus claire des rues et avoir une navigation plus facile.
Ici, les écoles, les cliniques et les commerces apparaissent et disparaissent au gré du développement chaotique du bidonville. Pour faciliter la vie des habitants, chaque lieu important est référencé manuellement par les bénévoles. Grâce à une application de cartographie, John géolocalise ce barbier installé dans une cabane flottante.
Nous avons ajouté votre salon de coiffure sur notre carte.
Sans titre de propriété ni existence légale, les habitants de Makoko vivent perpétuellement sous la menace d'une expulsion. D'ici quelques semaines, l'ONG mettra en ligne sa carte.
Allez Thierry Paco, deux commentaires sur à la fois l'aspect de l'expulsion, parce que c'est une crainte qui pèse en permanence sur la tête des personnes qui vivent dans ces bidonvilles, et l'importance de cartographier.
Depuis le début, les premiers témoignages qu'on a sur de bidonvillois, leur crainte, c'est pour ça qu'ils ne font pas, entre guillemets, qu'ils n'investissent pas pour renforcer leur bâtiment, etc. C'est parce qu'ils ont la peur des bulldozers et de l'armée qui va les chasser. Hein. Alors donc, du coup, la revendication, à un moment donné, un sommet social, du forum social, il y avait eu des propositions d'une internationale des bidonvillois qui a disparu depuis, qui revendiquait la sécurité foncière. Donc c'est bien, c'est quelque chose de fondamental.
Et sur la cartographie des lieux, alors, là aussi, extrêmement important.
Et c'est très important, et c'est pas seulement là. D'autres bidonvilles aussi sont cartographiés par des ONG ou des mouvements d'habitants, afin justement de donner, de permettre à chacun de savoir quels sont les commerces, les services qui sont disponibles sur place par des bidonvillois.
Allez, on vous retrouve dans un instant avec quelques questions pour vous de la part des auditeurs de la Terre au Carré. On parle donc des bidonvilles avec vous, Thierry Paco, juste après Marie-Flore et Mal Barré.
C'est mal barré, ma chérie. Je te resserre un café. Il est un peu serré pour que tu te fasses à l'idée que ce sera bien lui le dernier. Enfin, c'est ce qu'on dirait. Encore une fois, l'amour s'arrête là. Encore une fois, il reviendra. C'est pas compliqué, oh chérie. Peut-être me suis-je emballée. C'est juste lui qui s'emballe, ou moi qui me suis fait des idées, et lui simplement désirait. Mais je sais qu'un jour viendra l'amour, il a juste pris un détour.
Marie-Fleur sur France Inter et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission.
La Terre au carré sur France Inter.
On est en France quand même, hein, on n'est pas en Inde. On n'a même pas de lampadaire, même pas d'air pour les jeux, même pas de sanitaire.
Ce sont des lieux dans lesquels on assiste en temps réel à la naissance d'environnements urbains sur des laps de temps très courts, entre 20 et 40 ans. Là où une ville traditionnelle demandait plutôt entre 4 et 800 ans pour être créée.
Je ne veux pas qu'on nous chasse. On est très bien là, pourquoi on va nous chasser? J'espère pas, hein.
Extrait du film sorti en 2013, Bidonville, architecture de la ville future de Jean-Nicolas Auron, et que vous conseillez d'ailleurs dans votre
absolument,
livre, Thierry Paco.
Oui, c'est un très très bon film.
Et d'ailleurs, vous proposez hein, pas mal de livres, de films en lien avec les bidonvilles.
Bah, j'étais étonné de voir qu'il y avait autant de romanciers, de romancières, de slameurs, de rappeurs, d'auteurs de BD, etc., qui sont nés dans des bidonvilles, et qui, du coup, leur témoignage est passionnant, bien sûr. Et pour le cinéma, il y a énormément de films, surtout au Brésil.
Donc tout est dans votre livre. Camille.
Alors, Gilles sur franceinter.fr voudrait savoir, Thierry Paco, où se cachent les bidonvilles aux États-Unis?
Alors, aux États-Unis, on les trouve à proximité des grandes mégalopoles, par exemple à Los Angeles, à San Francisco, à Philadelphie, à New York, etc. On en trouve qui sont tout à fait liés, évidemment, à l'importance de la population homeless, c'est-à-dire ce qu'on appelle les SDF, qui on les voit avec un chariot, un caddie, avec leurs petites affaires dedans. Et donc, on les repère et ils sont bien souvent déplacés par la police à 2-3 kilomètres de là où ils se trouvaient dans la ville. Donc, du coup, ils n'ont même plus la capacité de mendier, puisqu'on les met à l'écart. Et donc, là, ils constituent des campements bien souvent de mobile home, parce qu'il y a des ONG qui font font des dons de tentes, etc. Et donc ce n'est pas le bidonville tel qu'on pourrait le voir nous avec l'image qu'on a, les stéréotypes qu'on a en tête hein, de brick and broc comme on dit. C'est plutôt un vaste camping qui voilà où il y a une certaine entraide qui fonctionne, ce qui n'est pas le cas des bidonvilles en règle générale.
Ouais. Alors on a un certain nombre justement de clichés hein, au sujet des bidonvilles. Alors, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aller à l'encontre de ces clichés. Il y a d'ailleurs des journalistes hein, qui ont passé du temps dans ces lieux pour pouvoir relater ce qui s'y passe vraiment. Comment on vit dans un bidonville? Qui gère ces lieux exactement?
Alors là, c'est très compliqué parce qu'il faudrait reprendre continent par continent et même peut-être parfois ville par ville. Ouais. Bon, il est certain que...
Mais il y a des leaders dans chaque bidonville.
Il y a des... La municipalité, certaines municipalités sont très puissantes dans ces... s'occupent de ces bidonvilles, prennent comme interlocuteur ce qui est l'équivalent d'un chef de village dans le village.
Donc un leader charismatique.
Voilà, qui... des choses comme ça. Dans d'autres cas, ce sont des mafias qui contrôle, là justement, j'ai un ami brésilien qui vient de m'écrire, qui était en train de lire mon bouquin, et il me dit, hier dans la presse, on annonçait 21 morts dans un bidonville, dans une favelle de Rio, donc c'est pas non plus des lieux de toute tranquillité.
Hein. Et est-ce qu'au niveau, toujours de l'organisation sociale, est-ce que ça bouge beaucoup? Est-ce qu'il y a mouvement où les gens s'y installent et ils restent des années?
Ça dépend vraiment des lieux et de l'histoire locale des luttes sociales, par exemple. Bon, je connais plusieurs bidonvilles à Pune, en Inde, dans le Maharashtra, où je suis allé très régulièrement. Bien, dans l'un, il y avait des activistes, comme on dit. Ce sont des femmes. Toujours, les hommes sont absents. Ils font des enfants, ils boivent et puis ils s'en vont. Les femmes sont d'une incroyable ténacité, créent des choses, etc. Donc là, j'ai rencontré des femmes. Une qui était l'idrice d'un mouvement des femmes battues, et elle, depuis des années, elle a pris ça en main, elle a des avocats, elle mobilise des ONG internationales et indiennes, et elle oblige la municipalité à doter ce bidonville de latrines, d'eau, etc. Le bidonville d'à côté n'a pas la même chose.
Mais du coup, pardon, ma question, c'était est-ce qu'il y a des gens qui finalement sortent des bidonvilles et n'y reviennent jamais, et d'autres, est-ce qu'il y a une sorte comme ça de mouvement entrée-sortie régulier ou pas?
Il y en a un peu, mais c'est pas régulier du tout parce que il n'y a pas de marché du logement à prix accessible aux bidonvillois qui ont un revenu relativement régulier. Parce que c'est aussi un stéréotype qu'on a souvent de penser qu'ils ne font rien, qu'ils travaillent rien, ils sont chômeurs, etc. Pas du tout. Il y a beaucoup de bidonvillois qui sont malgré eux dans un bidonville parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour trouver un logement. Les premières études de Colette Pétonnet, par exemple, au Maroc, montrent des gens qui sont salariés. Mais ils peuvent pas accéder à un logement, donc du coup, ils s'installent dans un bidonville.
Mais il y a aussi beaucoup de violence, de trafic, d'inégalité. Hein. Ça, c'est la part d'ombre aussi, évidemment, de ces lieux.
Ça, il faut pas l'oublier non plus, parce que moi, j'ai lu beaucoup de bouquins qui idéalisaient le bidonville en disant ça préfigure notre devenir, les gens s'entraident, se partagent tout, etc. Pas du tout. C'est pour ça que j'insiste longuement sur un témoignage de Carolina Maria de Jésus, qui est une auteure qu'on vient de redécouvrir au Brésil. Ouais. Donc ça c'est passionnant. Qui publie en 1960. Enfin c'est un journaliste qui vient interroger parce que la municipalité avait installé des balançoires. Donc c'était un peu ironique. Il y avait peut-être d'autres choses à faire avant, mais bon. Mmh. Et puis ces balançoires étaient squattées, si je puis dire, par des adultes qui flirtaient là, etc. Et donc, un journaliste enquête là, et puis il découvre cette femme qui lui dit « Mais moi, j'écris mon journal, j'ai appris à écrire toute seule, j'écris sur des livres de contes que je récupère dans les poubelles. » Et il lit tout ça, il est fasciné, il le rédige, ça devient un best-seller, c'est-à-dire plus d'un million d'exemplaires vendus au Brésil. Alors elle justement, elle est part du bidonville, parce qu'elle a les moyens. Mmh. Et pour elle, le bidonville, c'est le titre de son livre, c'est le dépotoir. Mmh. Donc il n'y a pas de solution d'amélioration du bidonville pour elle. C'est un dépotoir où les gens, elle donne des tas d'exemples d'une voisine, par exemple, qui était jalouse que Carolina Maria ait pu coudre une petite robe à fleurs pour sa fille. Alors elle lui jette un seau d'excréments. Alors c'est la voisine.
Thierry Paco, on découvre aussi le tourisme de ces bidonvilles, avec un tourisme de la misère qui émerge dans les années 90. On va visiter les bidonvilles dans plusieurs pays. Les favelas, par exemple, brésiliennes sont très connues pour ça.
Oui, c'est le zoo humain. Ouais. On prend des photos, on fait des vidéos.
Donc il y a tout un commerce commerce aussi, parce qu'évidemment, ceux qui organisent ce commerce-là financent les bidonvilles.
Oui, et puis ils sont obligés de...
Pour que des touristes puissent entrer en toute sécurité.
Absolument. Sinon, ça ne marcherait pas. Quoi.
Donc c'est totalement abject, en réalité.
C'est abject, oui. Il n'y a pas d'autre terme. Ouais. C'est honteux, quoi.
Ouais. Alors, du point de vue de l'organisation sociale, on en a parlé, et des matériaux aussi utilisés, parce que là, il y a aussi des ressources qui sont économisées. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet dans les bidonvilles? Parce qu'il y a des choses à retenir aussi, ouais, finalement.
Pour ceux et celles qui pensent que le bidonville peut nous inspirer, nous, effectivement, il y a du réemploi, et puis il y a l'utilisation de tout ce qu'on peut récupérer.
Ouais, vous dites qu'il y a peu d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple.
Oui,
et
ça, évidemment.
C'est une vue d'esprit ou
parce que, non, parce que forcément, ils prennent que du bois qui existe déjà, de la terre qui est à côté, et puis voilà, donc on assemble les choses, il n'y a pas de béton. Donc on sait qu'une tonne de béton, c'est une tonne de CO2, là on n'a pas le cas, on n'a pas ça. On a des matériaux biosourcés, si vous voulez. C'est ça qui est l'ambiguïté, parce que c'est en même temps un océan de misère, il ne faut pas non plus rêver. Quoi.
Nicolas nous demande si on peut considérer que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est un bidonville étant en zone rurale.
Non, parce que c'est le bidonville, c'est un peu quelque chose dont on est contraint.
Subi, quoi.
Subi. La ZAD, c'est un choix militant, politique, et en même temps, bon, quand on y va, on voit que c'est des vraies maisons, enfin, qui sont accueillantes. Évidemment, avec des matériaux moins sophistiqués que ceux qu'on peut utiliser dans les quartiers de la ville.
Et vous dites que c'est une contrainte, ça veut dire que dans les 2 milliards là, d'habitants sur Terre qui seront dans des bidonvilles dans les prochaines années, ça veut dire quoi? Qu'on va avoir de plus en plus de mal à se loger? Qu'est-ce qui explique finalement ce côté exponentiel?
Exactement, on aura de plus en plus de difficultés
à se
loger.
Mais pourquoi? Parce que c'est trop cher? Parce qu'il n'y a pas assez de logements? Parce qu'on est trop nombreux? Ça, c'est une question qui revient souvent.
C'est trop cher et on est trop nombreux au même endroit. C'est-à-dire que du coup, comme on a le mirage de la grande ville où on croit trouver de quoi s'en sortir, comme on dit simplement, on tombe dans le panneau. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est repenser les territorialités des humains sur Terre. Et ça, c'est une autre paire de manches. Ça concerne tous les pays du monde, tous les habitants de la Terre.
En tout cas, vous dites on devrait être attentif aux évolutions des bidonvilles, non seulement parce qu'ils anticipent le devenir pauvre de la société, mais aussi parce qu'ils en préfigurent les scénarios possibles.
Ben oui, parce que du coup, je pense que la frugalité subie, imposée à cette population, peut se transformer en frugalité revendiquée. Mais ça veut dire aussi que là, on est dans un autre processus d'émancipation.
Vous restez avec nous, Thierry Pacaud. J'espère qu'on aura le temps encore pour quelques questions dans un instant.
France Inter. La Terre au carré.
14h31, on passe au vert, Camille Cronier.
Et oubliez Pando, la colonie de peupliers aux États-Unis, considérée jusque-là comme l'un des organismes vivants les plus massifs au monde, sur 43 hectares. Posidonia australis couvre 20 000 hectares.
Sounds like a lot, doesn't it?
Oui, c'est beaucoup. Alors, Elisabeth Sinclair est australienne, biologiste de l'évolution à l'Université de l'Ouest à Perth. Et c'est sur cette côte qu'elle a fait donc la découverte de ce qui devient aujourd'hui la plus grande plante du monde. L'étude a été publiée hier dans le Royal Society Publishing. Découverte inopinée en voulant au départ faire une cartographie génétique de Shark Bay.
On a prélevé des morceaux d'herbier à 10 endroits différents de la baie. Les deux plus éloignés se trouvant à 190 km l'un de l'autre. Puis on a comparé les génotypes, les empreintes de chaque morceau. Et ils étaient quasi identiques à travers toute la baie.
Réaction dans l'équipe dont fait aussi partie Martin Breed de l'université de Flinders à Adélaïde. C'est quoi ce délire en gros? On était totalement... sidéré et un peu déçu aussi au début, dit-il, puisqu'on a trouvé zéro diversité génétique dans cette zone immense. Puis on a réalisé qu'on avait affaire à quelque chose de très inhabituel.
Oh my God, we have found something absolutely amazing.
On a trouvé un truc incroyable. Alors je vois votre esprit galoper, mais...
On ne peut pas le sortir de l'eau et ce n'est pas un individu qui, d'un seul tenant, fait 180 km.
Voilà, alors calmos l'imagination, hein, ce n'est pas une grande plante de 190 km, effectivement. Sophie Arnaud Ahon vous explique, elle est chercheuse IFREMER à 7, unité Marbec, et elle travaille précisément sur l'évolution des organismes marins, dont les herbiers.
Ce n'est pas une seule entité physique, elle est déconnectée. C'est tout un tas de fragments du même individu qui sont un petit peu partout.
Un peu comme si nos bras faisaient leur vie ailleurs, hein, mais ça reste quand même nos bras, Mathieu. Mmh. Alors comment c'est possible? Eh bien parce que Posidonia australis, de la même famille que notre herbier de Posidonia en Méditerranée, à ne pas confondre au passage, s'il vous plaît, avec une algue, hein, c'est comme les cétacés, la plante a évolué sur Terre avant de revenir en mer, et donc dispose aussi d'un système racinaire. Posidonia australis, donc, est ce qu'on appelle une plante clonale.
C'est une plante qui se clone, c'est-à-dire que c'est une façon naturelle chez beaucoup de plantes de se reproduire à travers la multiplication cellulaire dans le rhizome, donc caché sous le sédiment. Le rhizome s'allonge par multiplication cellulaire et puis produit de nouveaux rameaux de feuilles.
Et si elle a grandi et donc résisté depuis 4500 ans, âge estimé par les chercheurs, ce serait grâce aux petites mutations dues au clonage, mais aussi à son héritage génétique. Elisabeth Sinclair reprend la main.
La plante a hérité de tous les chromosomes de ses deux parents, donc leur nombre a doublé. Et ça a donc doublé le nombre de gènes qui lui permettent certainement de bien s'adapter à l'environnement dans lequel elle vit.
Une sorte de guerrière avec double dose de chromosomes que les scientifiques étudient donc pour tester désormais ses limites. Elle pourrait être une clé pour mieux comprendre l'adaptation et donc faire face aux changements brutaux en cours, limites en termes de salinité et de température de l'eau en particulier.
The great risk there is what are called marine heat waves.
Martin Bride explique que les grands risques sont les vagues de chaleur marine et les cyclones qui peuvent faire de gros dégâts. Le changement climatique rapide, dangereux pour les herbiers, pourtant indispensable, on le rappelle, les herbiers.
Ce sont des puits de carbone essentiels qui sont également des formateurs d'habitats qui abritent une biodiversité exceptionnelle à l'échelle de la planète.
Et alors fermez les yeux cette fois pour bien imaginer.
C'est une immense pelouse sous-marine dont les feuilles peuvent mesurer un mètre, avec une couleur vert foncé et toutes sortes de petits animaux, de plantes, bactéries, champignons, mais aussi de la mégafaune, des dugongs, des dauphins, de grandes tortues et des choses plus insolites comme des serpents de mer.
Très venimeux au passage. Et cette géante des mers a un nom depuis ce matin.
Wordia Jalyunu Nura. It means seagrass mob.
Un nom aborigène qui veut dire la foule de l'herbier, mob étant précisément un terme que les aborigènes utilisent pour parler de leur famille ou famille élargie, donc Wiria Jalyanu Nura.
Et c'était Camille Passauvert. Ça vous embouche un coin,
ah
Thierry
oui,
Paco.
C'est impressionnant, effectivement.
La végétation, d'ailleurs, dans les bidonvilles, Thierry Paco, il n'y en a pas de fait, puisqu'on
alors,
est
très,
en
très
zone
peu,
urbaine.
Il y en a, par exemple. Le jardinier Gilles Clément avait participé à une mise en paysage, entre guillemets, d'un bidonville d'un township en Afrique du Sud. La femme dont je parlais tout à l'heure, à Pune, mettait sur ce qui est devenu sa terrasse des pots de métal remplis de terre avec des fleurs. Donc il y a des améliorations comme ça au jour le jour. Et ça, ça va pas très vite parce que il y a trois dangers pour les bidonvilles partout dans le monde et depuis les premiers bidonvilles, c'est l'eau. Donc, comment éviter que la pluie, la mousson, etc., pénètrent dans la baraque précaire? C'est ensuite, évidemment, le feu. Parce que l'incendie est très fréquent, puisqu'on
et ça se propage très vite.
Et ça se propage très vite. Et puis, le troisième, ce sont les rats.
Ouais. On voit, quand on survole par exemple l'Inde ou des villes comme Bombay, l'étendue vraiment tentaculaire de ces bidonvilles qui collent même les grilles de l'aéroport, par exemple, à Bombay. C'est extrêmement impressionnant.
C'est tout à fait impressionnant.
Il y a une connexion justement entre l'aéroport et
le bidonville. Oui, parce qu'en fait, et même ça a été tragique avec la Covid, parce qu'on a fermé les aéroports pendant un moment donné, et les bidonvillois n'avaient plus accès au reste des plateaux repas qu'on jetait. Et que récupérer, évidemment. Soit pour vendre toutes les portions qui étaient encore bien emballées, et pour manger ce qui était déjà entamé.
C'est le plus grand au monde, le bidonville?
Non, il y en a un à Karachi. Bon, c'est toujours très difficile. Ça,
mais combien de personnes, en gros?
C'est plus d'un million.
Un million de personnes dans ces bidonvilles.
À Dharavi, c'est un million. À Karachi, c'est plus d'un million. À Bagdad, c'est plus d'un million. À Mexico, il y en a encore un qui est très très grand, etc. Mais sinon, on a des bidonvilles tout petits, comme je le disais tout à l'heure.
François nous écrit sur franceinter.fr qu'il est urbaniste et qu'il travaille beaucoup dans les territoires d'outre-mer. Je tenais à dire, écrit-il, que les bidonvilles sont encore très nombreux en Guadeloupe, en Martinique et surtout en Guyane, notamment à Saint-Laurent-du-Maroni. Les bidonvilles représentent des dizaines de milliers d'habitants alors que personne n'en parle.
Oui, exactement. Alors, moi, j'en parle parce que j'évoque aussi les romanciers et romancières qui décrivent les situations, mais aussi à Mayotte, pour parler d'un autre pays. Ouais.
Thierry Paco, pour terminer, une petite archive de l'INA en 1963, c'est à Nanterre.
C'est là un phénomène général, international. New York ou Moscou, les bidonvilles n'épargnent aucune capitale. Paris, pas plus que les autres. À Nanterre ou à La Courneuve, les bidonvilles ressemblent à ceux de toutes les latitudes. Ils se ressemblent tous. Quelques planches mal jointes, des toits faits de n'importe quoi. Sur un terrain vague, des hommes venus en masse travailler dans la région parisienne ont fait naître ces cités misérables. Africains du Nord, Portugais, Espagnols et aussi des Français. Si le gîte est précaire, du moins il est bon marché. Et dans ce souci d'économie, on peut trouver une des raisons d'être du bidonville. Ainsi vivent dans les conditions de la misère des centaines de familles aux portes de la grande ville.
Et c'est souvent la difficulté de l'accès au logement hein, qui donne naissance au bidonville. Hein.
Absolument, je pense que tout être humain est en quête d'un chez-soi. Et philosophiquement, la question que moi je pose, c'est de quel soi s'agit-il ?
Merci beaucoup Thierry Pecaud d'être venu aujourd'hui dans la Terre au Carré, sujet donc sur les bidonvilles qui fait l'objet de ce livre passionnant. C'est aux éditions de La Découverte.
Merci beaucoup.
Merci à vous, à bientôt. You want me dead, now I am dead, sir. I am upset, I want you dead, cuz I am upset. Now you are dead, though. We are upset, sir. We want to live, but life is dead, sir. Now you are dead, though. We are upset, sir. We want to live, but life is dead, sir. Dans la Terre au Carré, Thomas Pesquet et la Grotte Cosquer au programme du club. Et ce sera sans vous, Camille. On se retrouvera la semaine prochaine.
Voilà, à la
bon
semaine
petit
prochaine.
Week-end prolongé. Dans un instant, les émissions de la campagne officielle pour les élections législatives.